Alexandre Dumas, La route de Varennes. Chapitre 1. Grâce au chemin de fer, on arrive encore, on arrive toujours, on arrive mieux même, lorsque l'on arrive. Mais on ne voyage plus. Nous arrivâmes à Châlons, mon compagnon de voyage et moi, à 1h du matin, le 21 juillet 1856. Au milieu des titres d'hôtel dont nos oreilles furent assourdies en entrant dans la cour de la gare, je remarquai la Haute Mère Dieu. L'hôtel me parut d'une assez grande antiquité pour avoir une réputation à soutenir. Je me fis indiquer, parmi les 3 ou 4 omnibus qui attendaient, béants comme le taureau de Phalaris, celui qui devait nous conduire à notre sainte destination. Nous nous y enfournâmes résolument. 5 minutes après, nous dansions sur les pavés du chef-lieu du département de la Marne, comme nous aurions pu faire sur des œufs de marbre, et à 1h15, nous étions rendus à destination. L'hôtel était, la nuit, ce que sont la nuit tous les hôtels, une espèce d'argus aux 100 yeux qui dort un œil ouvert. Cet œil était éclairé par une lampe, et à la lueur de cette lampe dormait des 2 yeux un pauvre diable de garçon chargé de veiller pour attendre les voyageurs. Il nous conduisit, tout en trébuchant, à une grande chambre à 2 lits, alluma 2 bougies qu'il posa aux 2 extrémités de notre appartement pour en marquer le pôle arctique et le pôle antarctique. Nous demanda d'une voix suppliante et espérant bien que nous lui répondrions non. « Ces messieurs n'ont-ils besoin de rien ?» Et sur notre réponse négative, il se retira avec empressement pour jouir des 4 heures de sommeil qui lui restaient. Quelques minutes après, mon compagnon et moi, nous soufflions chacun notre bougie en nous jetant un bonsoir à travers l'espace. À peine étions-nous levés que nous eûmes la visite de notre hôte. Il avait découvert, je ne sais comment, l'identité de mon individu et, ne supposant pas que l'on pût venir à Châlons pour autre chose que pour faire des études sur le vin de Champagne, il se mettait à nos ordres, offrant de nous montrer les caves de M. Jackson. Je remerciai notre hôte de son obligeance. Je lui dis que, s'il nous restait du temps, nous solliciterions par son entremise de l'illustre propriétaire la faveur de visiter ses catacombes, mais que, pour le moment, notre esprit tournait au vent des recherches historiques et non vinicoles. En effet, j'étais venu à Châlons pour voir l'endroit où, comme un présage, les chevaux qui conduisaient la voiture de Louis XVI chopèrent, s'abattirent 2 fois et s'engagèrent tellement sous les traits que l'on fut forcé de les dételer et de les réatteler, ce qui fit perdre près d'une demi-heure. Voulant me rendre compte des localités, j'allai, accompagné d'un chalonnet fort complaisant, mais surtout fort spirituel, Monsieur le Roi, à la poste aux chevaux. Elle est affermée aujourd'hui par Monsieur Duguay. On m'avait assuré que la poste s'était toujours tenue là, et que c'était là, par conséquent, qu'avait relayé Louis XVI le mardi 21 juin à 4h30 du soir. Monsieur Duguay, trop jeune pour en appeler à ses propres souvenirs, eut l'obligeance de faire des recherches dans ses titres de propriété. Il découvrit que ce qui causait cette erreur, c'était le titre de messagerie royale appliqué au bâtiment qu'il occupe aujourd'hui et qui, en cessant d'être le bureau des messageries royales, sont devenus la poste. La poste de 1791 était située au bout de la rue Saint-Jacques, dans la maison qu'habite aujourd'hui M. Eugène Perrier. Le maître de poste s'appelait Houdet. « Si nous arrivons à Châlons sans être reconnus, avait dit le roi, nous sommes sauvés. » On était arrivé à Châlons sans être reconnus. Voyons comment on était arrivé jusque-là. Ce point de l'histoire de France m'a toujours tellement préoccupé que je crois qu'aucun des détails de cette fuite de Varennes ne m'a échappé. Quel avait été le premier conseiller de cette fuite fatale ? Mirabeau, dira l'histoire. Le portrait de Charles Ier, dirons-nous. N'avez-vous pas souvent rêvé, devant ce beau portrait de Charles Ier par Van Dyck, chef-d'œuvre non seulement de peinture, mais encore de poésie ? Il est là, le fier Stuart, rêveur, mélancolique, la main droite sur sa canne, la main gauche à la garde de son épée. Il est là, avec ses longs cheveux, en campagne contre les têtes rasées, les têtes rondes, les puritains. Il a derrière lui son cheval, tête basse et grattant la terre, tenu par son page béret. Il a devant lui la mer solitaire et sauvage, la mer qui semble l'ennemi de ce roi des quatre mers, comme s'intitulaient ses prédécesseurs, les rois de la rose rouge et de la rose blanche. Voilà tout ce que l'on voit sur cette magnifique toile. Seulement, derrière le roi qui se retourne à demi, derrière le cheval qui gratte la terre, derrière ce page qui, n'ayant ni les craintes du roi ni l'instinct de l'animal, demeure insoucieux, derrière tout cela, on devine la sombre fenêtre de Whitehall, l'échafaud tendu de noir, le bourreau masqué. Eh bien, ce tableau a eu sur les destinées de la France une influence fatale. Disons son histoire en quelques mots. Il était en Angleterre. L'Angleterre, peu artistique, ignorait la valeur de ce tableau. Un homme, se donnant pour un marchand français, se présenta un jour chez son propriétaire. On offrit 1 000 louis en bel or bien reluisant, bien sonnant. Les 1 000 louis tentèrent l'anglais et le tableau devint la propriété du marchand. Le marchand était un émissaire de M. le duc de Richelieu. Que voulait faire M. le duc de Richelieu de ce tableau ? Oh, ceci, c'était toute une conspiration contre le Parlement. Il fallait décider un vieux roi usé à casser son Parlement. Pour rendre de la force au roi, il fallait rajeunir l'homme. Le roi, c'était Louis XV. Monsieur de Richelieu inventa Madame du Barry, jeune et jolie coquine, justement assez médiocre pour ne pas prendre de l'influence personnelle, assez spirituelle pour aider à l'influence des autres. Messieurs d'Aiguillon et de Richelieu firent d'abord à la petite grisette l'honneur d'être ses amants. Puis on la maria à un gentilhomme pauvre qui lui prêta son nom. Puis on la donna à Louis XV. C'était juste ce qu'il fallait. Louis XV s'amusa de l'audace familière avec laquelle la favorite lui parlait. Ses sens se réveillèrent au baiser de la courtisane et les sens du roi éveillés, on le crut capable de prendre une résolution. Ce fut alors que M. de Richelieu acheta le tableau de Van Dyck et le donna à la favorite sous le prétexte que ce page qui tenait le cheval du roi Charles Ier et qui s'appelait Berry était un des ancêtres de son époux. Voilà le prétexte. Maintenant, voici la réalité. Ce portrait de Charles Ier fut placé à un endroit où le roi Louis XV put l'avoir éternellement sous les yeux. On le plaça contre la muraille du boudoir de la favorite, en face du sofa de la courtisane. Celle-ci étant logée dans les mansardes du château de Versailles, le tableau de Van Dyck tenait toute la hauteur de la muraille, touchant d'un bout au plafond, de l'autre au parquet. Cette splendide toile qu'on eût dû respecter, sinon comme œuvre d'art, les rois et les courtisanes s'inquiètent peu, en général, des œuvres d'art, du moins comme un monument de l'instabilité du destin, fut pendant 7 ou 8 ans témoin des ébats effrontés de cette femme qui, selon la belle expression de Lamartine, déshonora le trône et l'échafaud, le trône par ses rires, l'échafaud par ses cris. C'est en face de cette toile, dit Michelet, qu'elle prenait le roi par le cou et lui montrant Charles Ier. « Vois-tu la France ? » disait-elle. C'est ainsi qu'elle appelait Louis XV. « Voilà un roi à qui l'on a coupé la tête parce qu'il avait été faible pour son parlement. Maintenant, ménage le tien. » Louis XV cassa son parlement. Puis Dieu cassa le roi Louis XV. La courtisane fut chassée de la demeure royale. Le tableau fut descendu dans les appartements du dauphin, devenu roi sous le nom de Louis XVI. Arriva le 6 octobre le retour du roi Louis XVI à Paris. Les Tuileries furent données comme résidence au roi. On meubla les Tuileries aux dépens de Versailles. Le portrait de Charles Ier suivit le roi. C'était comme un présage qui semblait dire « Bourbon, souviens-toi de Stuart ». Le dernier mot de Charles Ier sur l'échafaud n'avait-il pas été « Remember, souviens-toi ». Or Louis XVI se souvenait. Il ne se souvenait même que trop. Saxon par sa mère, Louis XVI parlait l'allemand et l'anglais. Il avait traduit, chose étrange, l'apologie de Richard III d'Horace Walpole. Il lisait éternellement Hume dans l'original, et Hume lui disait, comme l'a du Barry à Louis XV, « voilà un roi qui a eu la tête coupée pour avoir cédé à son parlement. Louis était irrésolu avant tout, plus irrésolu que jamais quand il s'arrêtait devant ce visage au mélancolique regard, et il répétait ce dernier mot du roi près d'être décapité, « Remember ». Il ne voulait pas céder à son parlement comme Charles Ier. Il prit un terme moyen, il résolut de fuir. Le conseil de Mirabeau ne vint qu'après celui de Charles Ier. Qu'on nous pardonne de revenir aussi souvent que nous le faisons sur cette grande époque et d'en graver, s'il est possible, chaque détail dans la mémoire du peuple et des rois. Le Moniteur, du 14 juillet 1789 au 7 Thermidor 1795, est l'évangile politique du monde entier. Charles Ier et Mirabeau recommandaient donc également à Louis XVI de fuir. Puis arriva un événement qui fit une grande impression sur lui. Cet événement avait eu lieu le 18 avril 1791. Le 18 avril 1791, le roi avait voulu aller à Saint-Cloud. C'était le lundi de Pâques. Le roi, la reine, les évêques, les serviteurs remplissaient déjà les voitures dans lesquelles on devait faire ce court voyage de 2 lieues. Mais le peuple empêcha le roi de sortir des Tuileries. Le roi insista. Le tocsin de Saint-Roch commença de sonner. Le roi se pencha en dehors de sa voiture. Des milliers de voix crièrent « Non, 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 le roi veut fuir !»« Je vous aime trop pour vous quitter, mes enfants, » dit le roi. « Nous aussi, nous vous aimons, » répondit un grenadier, « mais vous seul. » La reine, exceptée de cet amour de la France pour son souverain, pleura, trépigna, mais fut forcée de rentrer aux Tuileries. Le roi était donc captif, la chose était constatée. Or, il est permis à un captif de fuir. Le roi, à partir de ce moment, résolut de fuir et prépara sa fuite. Mais, en même temps que le roi désirait quitter la France, deux partis désiraient qu'il la quittât. Le parti royaliste, afin que le roi, en liberté, pût profiter des offres de l'étranger. Le parti républicain, afin de n'avoir pas besoin de décapiter le roi pour proclamer la République. Nous prouverons plus tard que ceux qui arrêtèrent le roi étaient non pas des républicains, mais des royalistes constitutionnels. Ce parti, une fois pris de fuir, il s'agissait de le mettre à exécution. La reine était la grande instigatrice de ce projet. Les princesses de la maison d'Autriche furent toujours les mauvais génies des rois de France. Marie de Médicis, Anne d'Autriche, Marie-Antoinette, Marie-Louise. Le roi eût pu partir seul à cheval. Grand chasseur, bon cavalier, rien ne lui était plus facile que de gagner, déguisé en courrier, quelque escorte assez puissante pour le conduire à la frontière. Mais pendant la nuit du 5 au 6 octobre, la reine lui avait fait jurer qu'il ne partirait jamais seul et ne quitterait la France qu'avec elle et ses enfants. Bon mari, bon père, autant que mauvais roi, il voulait bien se parjurer vis-à-vis de son peuple, mais non vis-à-vis de sa famille. Il fut donc résolu que tout le monde fuirait ensemble, le roi, la reine, les enfants de France. C'était doubler, tripler, quadrupler les difficultés. C'était rendre cette fuite presque impossible. La reine se chargea de ruser. D'ailleurs, elle était soutenue par les princes étrangers. Que mes lecteurs permettent qu'avec l'impartialité d'un éclectique, je les place un instant au point de vue de la royauté. Ce que nous autres, citoyens français, appelons l'étranger, l'ennemi, n'est jamais pour un roi de France l'ennemi, encore bien moins l'étranger. Hélas, l'étranger est presque toujours son peuple. Les rois, au lieu de prendre pour femme une simple particulière, en France ou à l'étranger, épousent constamment soit une princesse autrichienne, soit une princesse allemande, soit une princesse espagnole, soit une princesse italienne. Le père de Louis XVI avait épousé une saxonne. Le sang de nos rois n'était donc qu'à moitié français. C'était déjà un inconvénient grave même. Mais un inconvénient plus grave encore, c'est la parenté. Ainsi, lorsque Louis XVI, reconnu à Varennes, ramené de force à Paris, eut commencé d'entrevoir la silhouette de l'échafaud se dessinant à l'horizon, son peuple devint pour lui l'étranger, devint pour lui l'ennemi. C'est l'étranger qui est son ami, C'est l'ennemi qui est son parent. L'empereur d'Autriche, qu'il s'appelle Léopold ou Joseph II, est son beau-frère. Le roi de Naples est son neveu. Le roi d'Espagne est son cousin. Tous les rois de l'Europe sont un peu plus, un peu moins ses parents. S'il a le malheur de se brouiller avec son peuple et de le craindre, à qui s'adressera-t-il? Aux princes, ses parents. Or, les princes, ses parents, sont les amis du roi de France, mais sont les ennemis du peuple français. Un conventionnel qui, le 18 janvier 1793, aurait eu le courage d'exposer à la tribune cette théorie, si simple qu'elle devient compréhensible pour la plus médiocre intelligence, eût peut-être sauvé le roi. Nous sommes dans un siècle d'appréciation. Ce qui rend surtout ce siècle remarquable, c'est le besoin de connaître la vérité, pure, claire, limpide, dégagée de toute image. L'histoire est à la fois un tribunal d'appel pour le cordelier Danton et pour le roi Louis XVI. Eh bien, n'est-il pas juste qu'on tienne compte à chacun de la caste où il est né, du milieu où il a été élevé, de la sphère dans laquelle il a vécu? N'est-il pas juste que l'on juge Danton au point de vue du peuple, Louis XVI au point de vue de la royauté? Au point de vue de la royauté, Louis XVI se croyait donc aussi parfaitement le droit de fuir qu'au point de vue du peuple, Drouet se croyait le droit de l'arrêter. D'ailleurs, les encouragements ne manquaient pas au pauvre roi. Catherine II, Catherine le Grand, la Sémiramis du Nord, comme disait Voltaire, la Messaline du Nord, comme dira, comme a déjà dit l'histoire, Catherine II, le bourreau de la Pologne, n'écrivait-elle pas à Marie-Antoinette « Les rois doivent suivre leur marche sans s'inquiéter des cris du peuple, comme la lune suit son cours, sans s'inquiéter des aboiements des chiens. » Le roi de Prusse, dès 1789, n'offrait-il pas 100 000 hommes et, comme disait encore Voltaire, qui trouva moyen pendant 60 ans de flatter d'une main les peuples et de l'autre les rois, et quels hommes! Ces grenadiers au gros derrière que l'ennemi ne vit jamais. Voltaire, en faisant ses vers, qui ont le double malheur de n'être ni bons ni patriotiques, oubliait que l'ennemi de ces gros derrière, c'était principalement les Français. Gustave III, ce roitelet de Suède qui avait trouvé moyen de transporter sur le trône de Gustave Adolphe les vices des Valois, Gustave III n'offrait-il pas à la reine de l'attendre à Aix, sous le prétexte de prendre les eaux et de lui tendre la main de l'autre côté de la frontière? En outre, le Suédois Fersen, cet ami dont la tendresse, disait-on, allait au-delà de l'amitié, était là, près de Marie-Antoinette, la pressant, la poussant, se chargeant de faire faire les voitures, de la conduire hors Paris. La reine avait plus d'intérêt encore que le roi à quitter la France. Entendez-vous la voix du grenadier qui se fait l'interprète de toute une capitale, de tout un peuple, de toute la France, et qui dit « Et nous aussi, sire, nous vous aimons, mais vous seul ». Et non seulement la reine, qui avait vu ce jour où, dauphine, elle parut au balcon de l'hôtel de ville, 100 000 amoureux à ses pieds, la reine n'était plus aimée, mais encore elle était haïe. On l'avait appelée Madame Déficit, on l'appellera bientôt Madame Veto. Et elle était haïe tout à la fois par les constitutionnels, par les républicains, par les émigrés. Elle savait qu'il s'agissait de déposer Louis XVI et de nommer un régent, et quant à elle, de la renvoyer en Autriche et peut-être de l'enfermer dans un couvent. On avait tenu tant de mauvais propos sur elle à l'endroit de Madame de Polignac et de Monsieur de Coigny. Elle avait eu une si méchante affaire, celle du collier. Il lui était bien permis de ruser à la pauvre femme. En outre, voyez, quand le roi et la reine sont ensemble, pour combien peu la France entre dans la proportion. Le roi, né franco-saxon, Marie-Antoinette, née Lorraine-Autriche, la proportion est de 1 à 3, car la Lorraine ne peut pas encore compter comme France. Qu'on ne s'étonne donc pas si, dans ce conseil royal, composé du roi et de la reine, du mari et de la femme, la majorité fut pour la fuite. La fuite fut résolue vers la fin d'avril. Mais déjà, entre le conseil de Mirabeau et celui de Charles Ier, entre mai 1790 et avril 1791, des dispositions avaient été prises pour une fuite éventuelle. Dès le mois de février 1791, le roi écrit à M. de Bouillé qu'il a des ouvertures à lui faire, de concert avec M. de Mirabeau. Le comte de Lamarque devait être l'intermédiaire. « Quoique ces gens-là ne soient guère estimables, écrivait le roi à M. de Bouillé, et que j'ai payé Mirabeau très cher, je crois qu'il peut me rendre service. » M. de Bouillé répondait « Couvrez d'or la défection de Mirabeau. C'est un scélérat habile qui peut réparer par cupidité le mal qu'il a fait par vengeance. Mais défiez-vous de Lafayette, enthousiaste chimérique, ivre de la faveur populaire, capable peut-être d'être un chef de parti, incapable d'être le soutien de la monarchie. » Remarquez que Lafayette était le cousin germain de M. de Bouillé. On ne dira pas que M. de Bouillé était aveuglé par la parenté. C'est que M. de Bouillé était un homme très intelligent, très dévoué et, chose plus rare, très impartial. Nous en donnerons la preuve en opposant quelques lignes de lui à quelques lignes de Lacretel. Vers la fin d'avril, le roi écrivait de nouveau à M. de Bouillé. « Je partirai très incessamment avec toute ma famille dans une seule voiture que je fais en ce moment même, confectionnée secrètement pour cet usage. » M. de Bouillé répondait « Au lieu de cette berline faite exprès et qui attirera nécessairement les regards, il serait bien plus prudent, je crois, que Votre Majesté adoptât deux diligences anglaises. » Les diligences anglaises étaient les voitures de poste en usage à cette époque. Le conseil était bon. La reine empêcha Louis XVI de le suivre. Elle ne voulait pas se séparer de lui, elle ne voulait pas que ses enfants se séparassent d'elle. Monsieur de Bouillé ajoutait « Ayez surtout près de vous, sire, pour conseiller Votre Majesté dans les dangers qui peuvent surgir pendant un pareil voyage, ayez un homme de tête et de bras, d'improvisation et d'exécution, et, si Votre Majesté ne sait pas où trouver cet homme, je le lui indique, c'est le marquis d'Agou, major des gardes françaises. » Le roi adopta ce second conseil. Nous verrons plus tard comment M. d'Agou n'était point à Varennes et nous apprécierons les changements que sa présence eût pu apporter aux événements. Le roi, dans une troisième lettre, ordonna à M. de Bouillé d'établir un relais de poste de Châlons à Montmédy. Son intention était d'éviter Reims, où il avait été sacré et où il pouvait être reconnu, et de passer par Varennes. M. de Bouillé répondit que le roi pouvait, en traversant Reims, tenir les stores de sa voiture fermée, mais qu'il verrait avec peine Sa Majesté persister dans sa première idée. Sur deux points de la route de Varennes, il n'y avait pas de relais de poste et il faudrait en envoyer. En outre, les troupes ne fréquentant point cette route qui se détourne de la ligne droite, il faudrait y placer des détachements spéciaux, détachements qui pourraient exciter les soupçons. Le roi persista dans sa résolution. Il envoya 1 000 000 en assignat à M. de Bouillé pour faire face aux dépenses qu'occasionnerait le déplacement des troupes et les achats de fourrage, et le chargea de faire reconnaître par un officier intelligent et courageux la route qui conduit de Châlons à Montmédy en passant par Varennes. M. de Bouillé, sur un ordre si positif, ne sut plus qu'obéir. Il envoya le 10 juin M. de Goguelat pour faire la reconnaissance de la route, mission pour laquelle il fallait, en effet, un officier intelligent et courageux. On verra que M. de Goguelat était l'un et l'autre. M. de Bouillé avait sous son commandement toutes les troupes de la Lorraine, de l'Alsace, de la Franche-Comté et de la Champagne. Ce commandement couvrait toute la frontière s'étendant de la Marne à la Meuse. 90 bataillons et 104 escadrons obéissaient à ses ordres. Seulement, il faudrait trier les hommes, éloigner autant que possible les Français, c'est-à-dire les patriotes. Au jour convenu, tout se mit en marche. Un train d'artillerie de 16 pièces fila sur Montmédy. Le régiment royal allemand prit la route de Stenay. Un escadron de hussards fut placé à Dun. Un autre vint se poster à Varennes. Deux escadrons de dragons se trouveraient à Clermont le jour du passage du roi. Monsieur de Damas, qui les commandait, avait ordre de porter de là un détachement à Sainte-Menoux et de plus 50 hussards envoyés de Varennes devaient se rendre à Pont-de-Sommevel entre Châlons et Sainte-Menoux, à 4 lieues de la première ville, à 5 de la seconde. C'étaient des hussards d'Estérasie, me disait Monsieur Mathieu, ancien notaire à Sainte-Menoux, vieillards de 84 ans. Je les vois encore avec leurs pelisses brunes. Il a vu bien des choses qu'il m'a dites et que je vous répéterai à mon tour. Un mot sur Pont de Sommeville d'abord. Que M. Thiers trouve plus court d'appeler Pont-Sommeville sans s'inquiéter de ce que Pont-Sommeville n'a aucun sens, tandis que Pont de Sommeville veut dire Pont des sources de la Velle. C'est en effet à un quart de lieue du pont où stationneront les 40 hussards que la Velle prend sa source. Au reste, de tous les historiens qui ont écrit cette fuite du roi, M. de Thiers est le moins bien renseigné. Il fait 5 erreurs graves en 3 pages. Nous les relèverons comme nous avons déjà relevé celle-ci. Le roi, avons-nous dit, trouvera des détachements de relais en relais. À Pont de Sommeville d'abord, à Sainte-Menou ensuite, puis à Clermont, puis à Varennes, puis à Dun, puis à Stenay. Le 27 mai, le roi écrivit à M. de Bouillet que son départ était fixé au 19 juin suivant. On avait dû d'abord partir le 11, mais on se défiait de Mme de Rochereul, femme de chambre du dauphin, qui était la maîtresse de M. de Gouvion, aide de camp de Lafayette, et elle était de service jusqu'au 12. On ne pouvait donc partir le 11. Dès le 15 juin, les Autrichiens devaient occuper les postes à 2 lieues de Montmédy. Le roi sortirait avec la famille royale dans une voiture bourgeoise. La grande berline de voyage attendrait à Bondy. Si le roi n'était pas arrivé à Bondy à 2 heures après minuit, c'est qu'il aurait été arrêté à la sortie des Tuileries ou à la barrière. En ce cas, le garde de la berline partirait seul et irait à Franc-Étrier jusqu'à Pont de Sommeville, où il annoncerait à M. de Choiseul que le coup était manqué. M. de Choiseul le ferait dire à M. d'Andouin, M. d'Andouin à M. de Damas, M. de Damas à M. de Bouillet, et chacun alors pourvoirait à sa sûreté. M. de Bouillet reçut les instructions et régla ses dispositions en conséquence. Il fit partir à l'instant même M. de Choiseul pour Paris. À Paris, M. de Choiseul attendrait les ordres du roi et se mettrait en route 12 heures avant lui. Les gens et les chevaux de M. de Choiseul se tiendraient à Varennes dès la matinée du 18. Le 19, frais et reposé, il prendrait la place des relais et conduirait la voiture de Varennes à Dun. On se rappelle qu'il n'y avait pas de poste à Varennes. À Varennes, le roi serait averti par un homme placé sur la route de l'endroit juste où il trouverait les chevaux. Le changement se ferait ainsi avec rapidité et sans embarras. À son retour, retour qui, nous l'avons dit, précéderait de 12 heures le départ du roi, M. de Choiseul prendra le commandement des 40 hussards de Pont de Sommeville. Il attendra le roi et la famille royale, les escortera jusqu'à Sainte-Menou. À Sainte-Menou, les hussards céderont la place aux dragons de M. d'Andouin et barreront le chemin. Derrière le roi, personne ne passera plus. Au bout de 24 heures, la consigne sera levée. M. de Choiseul aura des ordres signés du roi qui l'autoriseront à employer la force en cas de besoin. 600 louis d'or seront distribués par lui aux soldats. De son côté, M. de Bouillet, qui est à Metz, se rapprochera de Montmédy sous prétexte d'une tournée d'inspection. Ainsi, tout est bien arrêté. Le roi a eu le temps de réfléchir. Aucun changement n'aura lieu. Le 2 juin, M. de Choiseul est à Paris. Le 14 juin, M. de Bouillet est à Longwy. Il y reçoit une lettre du roi. Le départ est retardé de 24 heures. Pourquoi ce nouveau retard? Pour une grave raison. Le roi ne touchait son quartier de lice civile que le 20 au matin, et Louis XVI, en roi économe, ne voulait pas perdre ce quartier de pension. Si Paris valait bien une messe, selon Henri IV, 6 millions valaient bien un jour, selon Louis XVI. Cette raison, si bonne qu'elle fût, désespéra M. de Bouillet. En effet, c'était des contre-ordres à donner sur toute la ligne. Au lieu de 2 jours, 3 jours de stationnement pour les relais, 3 jours de cantonnement pour les troupes. Enfin, il fallait en prendre son parti. Le 20 juin, M. de Bouillet s'avança jusqu'à Stenay. Il y trouva le royal allemand, sur lequel il savait qu'il pouvait compter. Voyons ce qui se passait à Paris pendant ces derniers jours. Nous avons dit que la reine s'était chargée de ruser. Elle rusait. D'abord, elle avait offert les chevaux blancs qui devaient traîner le char triomphal de Voltaire. Le 19, elle avait été se promener avec le dauphin et avait suivi les boulevards extérieurs. Le 20, elle avait dit à M. de Montmorin, ministre des Affaires étrangères. « Avez-vous vu Mme Élisabeth ? Elle m'afflige beaucoup. Je sors de chez elle et j'ai fait tout au monde pour la décider à suivre avec nous la procession de la fête Dieu. Elle s'y refuse absolument. Tâchez donc d'obtenir d'elle qu'elle fasse à son frère le sacrifice de ses préjugés. » Le même jour, elle rencontre sur son passage un commandant de la garde nationale. « Eh bien, monsieur, lui demande-t-elle en riant, parle-t-on encore à Paris de la fuite du roi ?»« Non, madame, avait répondu le commandant, on est trop convaincu maintenant de l'attachement du roi à la Constitution et de son amour pour son peuple. » « On a bien raison !» avait répliqué la reine. Et elle avait passé, saluant le commandant de son sourire le plus gracieux. Puis on s'était occupé des détails matériels. Le 17, M. de Moustier, ex-garde du corps, fut abordé par un inconnu tandis qu'il se promenait aux Tuileries. Cet inconnu, au nom du roi, l'invita à le suivre. M. de Moustier obéit. 10 minutes après, il se trouva dans la chambre du roi. Louis XVI le salua par son nom et, abordant la question sans embâge, le pria de dire à M. de Valory et à M. de Malden, deux de ses anciens camarades, de se faire confectionner des vestes de couleur chamois. C'était assez imprudent. Le chamois était la couleur de chasse de M. de Condé, en émigration depuis plus d'un an. Il pria en outre M. de Moustier de se promener le soir sur le quai du Pont-Royal. Là, une personne de confiance et qui se ferait reconnaître lui porterait les derniers ordres du roi. Dans la soirée du 19, M. de Moustier reçut en effet l'ordre suivant. « M. de Moustier et ses compagnons devront se trouver dans la cour du château demain à 9h du soir. Ils y apprendront ce qu'ils auront à faire. » Restait à se procurer un passeport. Ce n'était pas chose facile. On ne pouvait voyager sans passeport à cette époque à cause de l'émigration. M. de Fersen leva la difficulté. Madame la baronne de Corf allait quitter Paris avec ses deux enfants, un intendant et deux femmes de chambre. C'était bien l'affaire. La reine passerait pour la baronne de Corf, Madame Royale et le dauphin figureraient ses deux enfants. Le roi serait son intendant et Mesdames Brunier et Denneville, qui devaient la suivre, seraient ses femmes de chambre. Là n'était compris, il est vrai, ni Madame Élisabeth, ni M. Dagout, que M. de Bouillet avait tant recommandé au roi de prendre avec lui. Mais il fallait bien donner quelque chose au hasard. Pour procurer un autre passeport à Madame la baronne de Corf, M. de Fersen prétexta que le premier avait été, par mégarde, jeté au feu avec d'autres papiers. Madame la baronne de Corf obtint un second passeport sans difficulté. Seulement, pour ne point compliquer la situation, elle ne devait partir que lorsque le roi et la reine seraient en sûreté à Montmédy. Dans la matinée du 20, M. de Moustier présenta ses deux compagnons au roi. Ces messieurs reçurent alors leurs instructions. M. de Malden devait répondre au nom de Jean, M. de Moustier au nom de Melchior et M. de Valory au nom de François. Le roi, toujours irrésolu, avait eu un instant l'idée de remettre le départ à la nuit du 21 au 22. Mais les instructions de M. de Choiseul étaient précises et il avait déclaré que, si l'on ne partait pas le 20 à minuit, il partirait, lui, le 21, à 4h du matin et ramènerait avec lui à Dun, à Stenay et à Montmédy tous les détachements qu'il trouverait sur sa route. Tels étaient les ordres positifs de M. de Bouillet. M. de Choiseul attendait chez lui, rue d'Artois, les ordres de la cour. Il n'avait rien entendu dire encore le 20 à 9h du soir, lui qui devait partir 12 heures avant le roi. Il commençait à désespérer lorsque le seul de ces gens qui l'eût gardé et qui croyait que, le soir même, son maître partait pour Metz, vint lui annoncer que quelqu'un demandait à lui parler de la part de la reine. Il respira et ordonna de faire monter celui qui se présentait. Cependant, le messager pouvait bien être chargé de lui dire que la reine ne partait pas. Cet homme entra. Il avait un chapeau rond enfoncé jusque sur les yeux. Il était enveloppé d'une immense houppelande. Malgré ses précautions, M. de Choiseul reconnut, du premier coup d'œil, le coiffeur de la reine, le fameux Léonard, qui a laissé des mémoires. C'est que le coiffeur de la reine était à la cour un personnage de la plus haute importance. Un homme qui avait bâti ses coiffures fantastiques, que l'on ne confectionnait qu'à l'aide d'une échelle double, et qui étaient des parterres tout entiers, avec des fleurs, des arbres, des oiseaux et leurs nids, était un homme qui devait avoir de sa valeur une haute idée. Un jour, il avait fait entrer dans les éléments d'une de ses folles coiffures un vaisseau de ligne avec ses trois ponts, ses mâts, ses voiles, son équipage, ses canons, ses cordages et ses banderoles. Il est vrai que c'était pendant le voyage de Cherbourg. « C'est vous, Léonard ?» dit M. de Choiseul. « Morbleu, j'attendais un homme avec impatience. J'ignorais que cet homme, ce serait vous. Mais puisque vous voilà, soyez le bienvenu. » « Ce n'est point ma faute si je vous ai fait attendre, monsieur, » dit Léonard. « Mais il y a 10 minutes seulement que la reine m'a prévenu que j'eusse à me rendre chez vous. »« Elle ne vous a rien dit autre chose ?» demanda monsieur de Choiseul. « Elle m'a dit de prendre tous ces diamants et de vous apporter cette lettre. »« Donnez donc !» dit monsieur de Choiseul avec impatience. Léonard regarda le jeune gentilhomme avec étonnement. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui manquât de respect à ce point. M. de Choiseul lut la lettre. Elle était longue et pleine de recommandations. Elle annonçait que l'on partirait à minuit juste. Quant au duc de Choiseul, elle l'invitait à partir à l'instant même, le priant d'emmener avec lui Léonard, qui, ajoutait la reine, avait ordre de lui obéir comme à elle-même. La reine ne voulait point partir sans son coiffeur et sans ses diamants. Le comte lut la lettre une seconde fois et, levant les yeux sur Léonard, « La reine vous a sans doute fait quelques recommandations de vive voix, mon cher monsieur Léonard » demanda-t-il au coiffeur. « Je vais répéter mot pour mot ces paroles à monsieur le comte. » « Répétez. » « Elle m'a fait appeler et m'a dit à voix basse, « Léonard, je puis compter sur toi ?»« À la vie, à la mort, madame, lui ai-je répondu. » « Eh bien, prends tous mes diamants, fourre-les dans tes poches. Prends cette lettre, porte-la rue d'Artois à M. de Choiseul, surtout ne la remets qu'à lui. » Puis, comme je m'éloignais pour obéir aux ordres de Sa Majesté, « Mets un chapeau à grand bord, m'a dit la reine. Prends une longue redingote pour ne pas être reconnue. Et enfin, mon cher Léonard, obéis à M. de Choiseul comme à moi-même. » Alors je suis montée chez moi, j'ai pris le chapeau et la redingote de mon frère, et me voilà. Monsieur de Choiseul fit lire à Léonard la même recommandation écrite et brûla la lettre de la reine. Le domestique du comte de Choiseul entra. La voiture de monsieur le comte attend, dit-il. Allons, mon cher Léonard, venez, dit le jeune gentilhomme. Comment, que je vienne ? S'écria le coiffeur stupéfait. Sans doute, ne devez-vous pas m'obéir comme à la reine ? « Eh bien, je vous donne l'ordre de venir. »« Et les diamants ?»« Vous les emporterez avec vous. »« Où cela ?»« Où nous allons ?»« Et où allons-nous ?»« À quelques lieux d'ici, où nous avons à remplir une mission toute particulière. »« Impossible, monsieur le comte !» s'écria Léonard en reculant d'effroi. « Léonard, vous oubliez que vous devez m'obéir comme à la reine. » « Certainement, monsieur le comte, et je ne refuse pas de le faire pour les choses raisonnables. Mais j'ai laissé la clé sur la porte de notre appartement. Quand mon frère va rentrer et qu'il ne trouvera plus son chapeau ni sa redingote, il jettera les hauts cris. Et puis, il y a madame de Lahage qui ne peut être coiffée que par moi et à qui j'ai promis de la coiffer. Il y a enfin mon cabriolet et mon domestique qui m'attendent dans la cour des Tuileries. » « Eh bien, dit M. de Choiseul, en riant et en enrageant tout à la fois de la résistance du coiffeur, que voulez-vous ? Votre frère achètera un autre chapeau et une autre redingote. Vous coifferez madame de Lahage un autre jour, et votre domestique, ne vous voyant pas revenir, croira que vous êtes rentré sans lui et rentrera sans vous. Quant à nous, mon cher Léonard, partons. » Et il fit monter le coiffeur désespéré dans son cabriolet qu'il poussa de toute la vitesse de son cheval vers la petite villette.